Regarder vers l'avenir, c'est plus qu'une rengaine qu'a répété à plusieurs reprises le président de la République lors de sa visite à Alger la semaine passée. Regarder vers l'avenir, c'est un programme, non pas d'effacement, ni même d'évitement, mais de dépassement de la mémoire. Programme politique, programme grammatical aussi, dans l'usage de l'impératif et le pari du futur. Sous la statue de l'émir Abdelkader, héros du peuple algérien qui s'est battu contre la France, Emmanuel Macron a vanté, mercredi, celui qui sut regarder l'avenir en n'étant pas l'otage de son propre passé. Entre deux interventions, il promet d'ouvrir une nouvelle page, une page d'avenir avec la jeunesse. Et à ce jeune homme qui l'interpelle justement sur le passé colonial, il répond un peu agacé « Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. » La seule embrouille ici, c'est celle dont témoignent ces éléments de langage répétés à l'infini. Cette formule « regarder vers l'avenir », elle contient en elle une forme de déni. Parce que dès qu'on parle d'avenir, on parle du passé. Pas forcément pour le renier d'ailleurs, mais pour le mettre un peu de côté. Et dans cette formule « regarder vers l'avenir », on n'entend que ça, le passé, celui d'une mémoire incarnée par des dossiers, celui d'une histoire partagée, qui ne saurait se conjuguer au futur, pas même au présent, mais toujours, hélas, à l'imparfait.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. À quel temps mon invité d'aujourd'hui conjugue-t-il le passé colonial français? Il est comédien, vous l'avez vu dans La Faute à Voltaire d'Abdelatif Kechiche, dans Indigène de Rachid Bouchareb ou encore dans Omar Mathué de Roche Dizem. Dans le très beau premier film de Sofia Jamal et Bienheureux qui sort mercredi, il joue un père de famille qui refuse de voir ce qu'est devenu son pays dans une Algérie hantée par son passé, notamment celui de la guerre civile des années 90. Bonjour Samy Bouajila.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Le passé, celui de l'histoire coloniale, qu'est-ce qu'on doit en faire, selon vous, aujourd'hui?
Ben déjà, il faudrait arrêter de le nier ou de le refouler, puis il faudrait l'accepter. Et faudrait une grosse analyse, en fait, quoi. Une analyse commune, j'ai l'impression, de part et d'autre, mais qui serait plus que bénéfique, parce que ça nous habite, mais c'est refoulé, donc moi je crains les méfaits de ce que ça peut produire, quoi, c'est tout.
Comment vous avez l'impression que la France regarde ses anciennes colonies du Maghreb? Comment est-ce qu'elle s'adresse à elles?
Ben, j'ai l'impression qu'en apparence les choses avancent, mais dans le fond on s'enfonce dans une schizophrénie qui encore une fois risque de nous desservir, c'est tout.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis la décolonisation, particulièrement en Tunisie dont vos parents sont originaires, et en Algérie, beaucoup d'autres choses se sont produites. En Tunisie, une révolution, en Algérie, une guerre civile qui a duré plus de 10 ans, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ces choses-là, on en parle très peu, Samy Bouajila, y compris au cinéma d'ailleurs.
Oui, belle remarque. Ben, je pense parce que le cinéma est assez réticent et pour le moment il y a un espèce d'engouement sur ces espèces de nouvelles comédies, etc. Et je pense que qui trouve son public d'ailleurs. Donc voilà, déjà une forme de réponse que la société nous dit. Et oui, mais on en parle peu, mais c'est tellement omniprésent. J'ai l'impression, c'est un héritage, voilà.
Vous avez beaucoup parlé avec la jeune réalisatrice Sofia Jama. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, ne serait-ce que d'évoquer cette guerre civile en Algérie?
Ah, je regrette que ce soit pas elle que vous posiez la question, parce que Dieu sait si elle est à même de pouvoir y répondre dans toute la complexité de ce qui se passe là-bas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai passé peu de temps là-bas, je suis resté 3 semaines le temps de ce tournage. En tout cas, j'ai rencontré un peuple assez meurtri par ces années de guerre civile qui sont qui planent sur eux, quoi. Il y a une espèce de main de fer, il y a une menace, il y a une épée Damoclès qui est encore là et qui fait assez peur, j'ai l'impression.
Et quel sens ça avait pour vous, Samy Bouajila, de faire un film comme celui-ci, un film qui montre la société algérienne de l'intérieur?
Un sens artistique avant tout. Moi, j'aime les histoires qui racontent quelque chose et qui a un effet de catharsis, qui nous tire vers le haut. Mais au-delà de ça, dès que je reçois une partition, surtout aussi riche que celle-ci, par exemple, mon premier réflexe c'est de tordre le cou à tout ça et de me mettre au service de l'écriture, des personnages et des situations en tant qu'acteur. Il s'avère que là, la partition, encore une fois, c'était de la dentelle, hein, elle sait particulièrement bien écrire, cette demoiselle, et c'est son atout. Et le second atout, c'est qu'elle parle d'une ville qui lui est chère, un peu comme Woody Allen avec Manhattan ou Truffaut avec Paris. Ben, elle parle de sa ville et donc du coup, elle parle d'elle-même et au sens contemporain du terme. Donc Dieu sait s'il y a des mots, des cris, des appels quoi, qui ressortent de tout ça. Voilà.
Et quelle histoire, votre personnage, c'est un gynécologue qui fait partie de la bourgeoisie intellectuelle athée. Lui et sa femme sont restés en Algérie dans les années 90, ils ont un fils de 18 ans et ils sont pas d'accord sur son avenir. L'un veut l'envoyer en France pour ses études, l'autre veut qu'il reste en Algérie. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce désaccord, qui n'est pas qu'un simple conflit domestique, qui va beaucoup plus loin?
Oui, qui va beaucoup plus loin, bien sûr, parce que il se heurte à une certaine réalité qui lui met en avant toutes ses désillusions. Il avait une pensée et un discours révolutionnaire. Il s'avère que maintenant, il nous voit avec des petites astuces pour faire tourner sa boutique.
Si c'est comme s'il avait refusé de voir la réalité en face.
Oui, mais c'est tous ces Che Guevara en herbe, si je puis dire, ou pas d'ailleurs, qui après 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'ont pas pu quitter le lieu, le pays. Dieu sait s'ils aspiraient à le faire, et ils sentaient la nécessité d'y rester pour faire avancer les choses, et ils se heurtent à une autre réalité qui les écrase, c'est tout, quoi.
Faut-il qu'il vous touche, ce personnage, pour que vous vouliez l'incarner?
Ah oui. Alors, oui, il me touchait, mais sans que je m'approprie son combat. Il me touchait par ses contradictions. Parce qu'on a et la difficulté était de trouver l'empathie de ce personnage en gardant sa dignité, son intégrité, si je puis dire. Oui, il me touche parce qu'il est traversé par des contradictions et que c'est donc quelqu'un qui est plein quoi et qui a plaisir à incarner ce genre de personnage.
Oui. Et qui montre aussi quelque chose d'aujourd'hui, la manière dont la religion, par exemple, a envahi la société, conquis la jeunesse.
Ah oui,
le film témoigne de cela, cette progression du conservatisme religieux, pas seulement en Algérie. D'ailleurs, on n'a pas voulu le voir, ça.
Non, on n'a pas voulu le voir, mais pas seulement en Algérie, comme vous dites. Moi-même, en France, dans les années 80, je vois encore une fois une manifestation de ce déni, c'est-à-dire que ceux qu'on appelait les barbus ou les imams des mosquées, des caves et des foyers Sonacotra, etc., ben, ils prenaient place, quoi. Ils étaient là et ils savaient répondre de manière pertinente à tous ces jeunes qui étaient des exclus de ce système et qui ne se retrouvaient nulle part. Mmh. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé.
Et là, je pense à une scène où votre personnage se dispute en pleine rue avec sa femme et son fils. Un homme en habit musulman se met alors à faire la morale. Et une fois qu'il l'a chassé, son fils lui dit « Ces gens-là sont vos créatures ».
Ben voilà, c'est la justesse de son écriture, je dirais. Et c'est un peu la réalité auquel se heurte mon personnage dans le quotidien. C'est-à-dire que le temps les a rattrapés et que c'est fini de refaire le monde tous les soirs comme ça. Maintenant, le monde est là, quoi, et il a repris le dessus. Mais vous savez, moi, pour m'éloigner un peu du film, et peut-être ça l'illustrera d'une meilleure façon, moi, quand j'étais petit, ou nous tous, quand on était petit, vous-même, Augustin, vous pouvez peut-être vous en souvenir, on n'avait pas un islam politique comme maintenant. Il n'y avait pas autant de foulards, il n'y avait pas autant. La religion n'était pas aussi. Il n'y avait pas de. Vous savez, quand on...
Des signes extérieurs.
Non, quand on essaye de récupérer, quand on impose, il n'y avait pas de. Bon, bref, ça me reviendra. Mais c'était pas aussi omniprésent, quoi. Il y avait une grande tolérance, c'était ouvert. Moi, je me rappelle des soirées de Ramadan, mais c'était une fête, quoi. C'était une fête.
On parlait d'avenir tout à l'heure. Lorsqu'on sort de la projection de ce film, Les Bienheureux, il semble assez sombre, l'avenir. Le titre, il paraît bien ironique. Qui sont-ils pour vous, les Bienheureux?
Là, vous avez tout dit. C'est assez ironique. Qui sont les Bienheureux? Eh ben, ce sont ces citoyens, ce sont ces gens, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui acceptent de se regarder dans le miroir ou de regarder leur société, de même qu'on accepte à un moment d'aller voir un tierce ou d'entrer dans un espace pour exprimer ces mots qui nous font peur ou qui nous font du mal et qui, à terme, avec une régularité, nous permettent d'évoluer et de trouver des réponses. Voilà.
Celle qui est bien heureuse dans cette émission, Samy, vous la connaissez forcément, c'est la culture et son actualité, parfois chagrine, parfois heureuse. Le lundi, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 10 décembre? c'est OK pour la chorale. Les ministres de l'Éducation et de la Culture vont annoncer aujourd'hui un grand plan chorale pour les écoles et les collèges. Objectif, donner aux élèves de 7000 établissements de France la possibilité de donner de la voix dès la rentrée prochaine. Ainsi, 2 heures hebdomadaires de chant optionnels vont être mises en place avec du classique et du populaire, du Mozart, du Barbara, du Brel et du Piaf. En avant la musique. Maria aussi a quelque chose en elle de Johnny en concert à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy samedi soir. Maria Carré a tenu à participer à l'hommage populaire rendu à Johnny toute la journée. Avant de commencer son spectacle, la diva en robe lamée a chanté une minute de Que je t'aime avec accent, avec trémolo, avec projection de photo. Ave Maria.
Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icare.
Courgette.
Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette.
Des Émiles en images, la première cérémonie des Émiles Awards, pensée comme les Oscars du cinéma d'animation européen, est baptisée en hommage à Émile Cole, l'un des inventeurs du dessin animé, s'est tenue ce week-end à Lille. Résultat, c'est Ma vie de courgette, le film déjà césarisé de Claude Barras, qui a triomphé, raflant 3 prix, dont celui du meilleur long métrage d'animation. Que du bon.
And now, coming up, we have that group that was once popular in the 1960s, it's the Rolling Stones, singing Down Home Girl.
Noël avant Noël, un enregistrement inédit de Paul McCartney vient de refaire surface, daté de 1965. La bande de 18 minutes se présente comme une fausse émission de radio, genre de compilation de Noël enregistrée par McCartney pour les autres membres des Beatles. Le musicien y passe ses disques préférés en les commentant, de I Get Around des Beach Boys à Don't Be Cruel d'Elvis, en passant par Down Home Girls des Stones. C'est mythique. Et Samy Bouajila, invité ce matin de Boomerang pour Les Bienheureux, le premier film de la jeune Sophia Djama. L'histoire, on le disait, d'un couple qui se disloque dans l'Algérie de la fin des années 2000, le jour où il est censé célébrer ses 20 ans de mariage. La question qui les divise, ces deux membres de ce couple, elle est limpide, c'est partir ou rester. Une question qui hante notre histoire à tous. Samy, une question qu'ont dû se poser certains membres de votre famille quand ils ont quitté la Tunisie. Pourquoi, dans quelles conditions sont-ils partis? Ils vous l'ont dit?
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Papa est parti en 56 avec son certificat d'études. Et au-delà de la fougue de sa jeunesse, j'imagine, de vouloir vivre des choses, il a tout simplement fait vivre toute sa famille et une bonne partie du petit village où il venait, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont quitté?
Ah bah, ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté, mais il n'y a pas de... Comment dire, à la limite, il y a une belle mélancolie. Moi, j'ai toujours vu des parents... D'abord, j'ai grandi dans l'amour parce qu'ils étaient pleins d'amour. Ils étaient naïfs, candides, mais tellement optimistes, tellement positifs. Et puis, il y a eu un déracinement, certes, mais ils ont eu plaisir à reconstruire ici en nous regardant et puis en créant d'autres liens. Et puis, les choses se sont faites assez simplement. J'ai pas souvenir, moi, de traumatisme, de combat racial, social, ethnique ou je ne sais quoi. Mes parents sont des gens pas du tout cultivés, mais assez lucides et bien en place. Et voilà.
Pour autant, votre père est cinéphile. Est-ce que c'est en France qu'est née sa passion pour le cinéma?
Ah non. Oui. Enfin, c'était un protectorat à l'époque, la Tunisie, contrairement à l'Algérie. Oui, c'est grâce à la France là-bas, bien sûr, qu'il a vu. Il était cinéphile, mais c'est un cinéphile à l'ancienne, je dirais. C'est-à-dire que il a sa filmo, c'est les westerns à la. Il était une fois dans l'Ouest, et surtout tous les Bruce Lee qui m'a fait voir.
Il vous emmenait au cinéma?
Ah ouais, les 5, je les ai vus.
À Échirolles, près de Grenoble.
Non, c'était pas Échirolles. Quand à l'époque, on habitait Grenoble. Centre-ville, et on allait dans un cinéma qui s'appelait Le Duo, et il y avait balcon et orchestre, je me rappelle, et il y avait un premier film, puis le masterpiece, quoi.
Et quand vous lui avez dit que vous vouliez devenir comédien, vous vous souvenez de ce qu'il a répondu?
Bon, franchement, j'en ai pas souvenir, parce que c'était pas une vocation pour moi, et ça s'est fait assez simplement, où à un moment, je finissais mon service d'objecteur de conscience, et j'entraînais le club de la ville d'où je suis, et j'avais du temps pour moi et j'avais décidé de sortir de mon ghetto mental, je dirais. Et je ne sais comment, je suis rentré dans un atelier théâtre d'abord qui était assez sain parce que le gars sortait de chez Lecoq. Donc il avait une approche vraiment très saine du théâtre où on met en avant le corps et des choses fortes avant les textes. Et ensuite, je suis rentré au conservatoire de région à Grenoble. Et voilà, de fil en aiguille. Bon, quand je lui ai parlé de rentrer dans une école nationale d'art dramatique, bon, franchement, il a juste pas très bien compris ce que c'était. Mais en revanche, ça l'a pas aidé à venir m'installer dans le studio que j'avais à Saint-Étienne. Et je l'ai emmené devant le théâtre Jean d'Asté, où c'était marqué Centre Dramatique National. Mais il flashait sur le dramatique.
De quel avenir est-ce que vos parents avaient rêvé pour vous, Samy Bouajila?
Alors franchement, et ça c'est tout en leur honneur, ben, je crois que... J'en sais rien. En fait, je crois qu'ils n'ont pas projeté davantage que ça, si ce n'est qu'ils voulaient notre bonheur à nous, quoi. Ils nous ont vraiment accompagnés.
Et je pose la question parce que les tensions entre les générations, c'est une donnée qui est très présente dans Les Bienheureux, où les parents que vous incarnez avec Nadia Cassis semblent ne pas comprendre, n'avoir aucune influence sur leur fils, avoir échoué à lui transmettre ce qu'ils auraient aimé lui transmettre.
Oui, c'était le cas pour moi aussi, mais soit je l'ai oublié, je l'ai même refoulé, soit ça se passait encore plus simplement parce que j'ai l'impression que... bon, nous, c'était une vraie révolution, un vrai choc culturel. Moi, j'ai quitté assez tôt le foyer avec une bande d'amis qu'on était, et on passait pas mal de temps dans le Vercors ou dans les massifs qui entouraient Grenoble. Et c'est là que je me suis un peu émancipé, déniaisé, et mes parents étaient témoins de ça. Et s'ils avaient des peurs, ils les gardaient pour eux, mais ils avaient surtout confiance.
Mais qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents, pensez ? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de plus fort ?
Waouh ! Alors là, on rentre dans un truc.
Pour faire une bonne bande-annonce de Mourant, ça.
Une espèce de grosse analyse.
Là, on rentre dans un truc.
Ils m'ont appris la témérité, ils m'ont appris la foi, ils m'ont appris à aimer la vie, à croire en soi, même si je suis pétri de doutes. Ils m'ont appris ces choses qui, à mon avis, sont essentielles. Voilà.
C'est ce que vous essayez de transmettre vous aussi, non seulement à vos enfants, mais aussi par le prisme de vos films, des films dans lesquels vous avez joué, Samy.
Oui, effectivement, avec du recul et en toute modestie, je le dis, à travers mon métier, oui, j'ai appris à me reconnaître. Oui, voilà.
On va reparler de transmission de cinéma, mais avant ça, je vous propose qu'on se bouge. Poussez les tables, rangez les chaises, desserrez vos ceintures et vos cravates, puisqu'il est question dans Les Bienheureux d'Algérie d'hier et d'aujourd'hui. On se réveille avec Rachida, Rock El Kasbah. Vous êtes sur France Inter avec Samy Bouajila. Vous écoutez Boomerang lundi.
رعبت في السنتر فيل كانت بنا ولا حنش استنى في رأس المال
صوت 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 القصبة
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est moins rocker que folkeux, en fait. Guitare sèche, brin d'herbe, entre les lèvres, chanson au clair de lune. C'est comme ça qu'on l'imagine dans la douceur de son regard et ses traits, sans parler de celle de ses cheveux, qu'on peut deviner. Il est l'agneau de la crèche, le panda roux grisonnant, avec sa chemise en jean et son petit pull ce matin. Samy Bouajila, invité de Boomerang, pour Les Bienheureux, un film qui raconte, on le disait, l'Algérie de l'après-guerre civile de l'intérieur. Votre personnage, Samy, il était pour la révolution démocratique à la fin des années 80. Il s'attendait pas à ce que le pays soit ensuite ravagé par plus de 10 ans de guerre civile et gagné par le conservatisme religieux. Vous diriez qu'il a manqué de lucidité?
Alors là, bonne question. Est-ce que tous ces indépendantistes qui au prix du sang, ont gagné leur indépendance et avec une vision visiblement assez révolutionnaire, etc., est-ce qu'ils étaient désabusés? Est-ce qu'ils étaient naïfs ou je ne sais quoi? Ça, j'en sais rien. En tous les cas, pendant qu'il le faisait, je pense qu'il était sincère. Et je crois que ça rend d'autant plus mordant cette amertume qui le chope, là.
Je vous pose la question parce que dans le film, la lucidité, elle est incarnée par les femmes. Oui. Les hommes, eux, semblent ne rien vouloir voir, ne rien vouloir reconnaître, ne pas supporter d'être contredit, y compris votre personnage qui pourtant se veut ouvert d'esprit et moderne.
Oui, c'est très juste ce que vous dites. Peut-être aussi parce que dans cette société-là, la femme a une place encore plus particulière, plus ambiguë, plus en déséquilibre, je dirais. Et cette lucidité qu'elles ont, effectivement, les hommes, en tous les cas, ceux qu'on dépeint dans ce film-là, et en l'occurrence le mien, sont un peu écrasés par une forme de lâcheté, je dirais.
À quelle situation absurde sont confrontées les femmes dans ce film?
C'était il y a pas longtemps encore Balance ton porc ici là, oui. Je veux dire, hein, voilà.
Partout, donc, dans le monde entier.
Dans le monde entier, oui. Bon bah, oui, mais c'est tombé. Là, ça tombe avec une certaine facilité. Puis on s'aperçoit tous que mince, c'était quand même méga omniprésent, même dans notre entourage, et que même nos collègues et nos copines et nos amis évoluaient avec ça. Et puis elles en faisaient fi ou en parlaient une fois sur trois ou je ne sais quoi. Bon, je pense que là-bas, c'est encore un peu plus compliqué, quoi.
Ce qu'on se dit quand même en voyant ce film, qu'il y a quelque chose de profondément féministe. Hein. C'est que l'évolution de la société, il ne pourra venir que des femmes.
La femme est l'avenir de l'homme, non?
Aragon.
Pour vous, la solution, c'est de partir, c'est ça?
S'il te plaît, Samir, c'est pas le moment.
Mais pourquoi pas? Hein? C'est ça?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est ce que vous avez fait, non? Mais faites, rachetez! Pendant que nous, on nous la mettait bien profond.
Samir, il s'agit pas de ça, là.
Mais elle, on discute,
mais
on discute.
Mais non, tu discutes pas, tu attaques.
Ah, je vous attaque?
Mais toi, t'étais où à l'époque, Samir Rolli? Quel compte?
Moi, j'étais à Alger.
Alger. Samir, faut que tu précises, t'étais dans une résidence d'État, club des femmes, surveillé par des petits soldats qui te bichonnaient, alors que d'autres se faisaient égorger comme des moutons. C'est plutôt ça, la réalité. T'as dit, hein?
Jamais de la vie, pas du tout.
C'est pas vrai. Non, s'il te plaît, j'en ai marre de ce genre de discussion.
Amel, on discute!
Tous les ans, les mêmes discours, c'est bon.
Non, écoutez, je décrète la fin des hostilités. Pas de sang aujourd'hui, s'il vous plaît.
Ah, mais en démocratie, on a le droit de discuter. Il y en a qui sont morts pour ça.
Les Bienheureux, Samy Bouajila, où votre personnage reproche à ses amis d'être partis, d'avoir quitté l'Algérie, et les désigne, pour ainsi dire, comme des lâches ou des étrangers. Se sentir étranger, c'est un sentiment dont vous avez fait l'expérience, vous. C'est à l'artiste que je m'adresse autant qu'à l'homme.
Ah oui, à l'artiste, oui, bien sûr. Oui, alors, se sentir étranger, alors ça, on peut même se sentir étranger dans son propre chez-soi, quoi.
Bien sûr.
Dans sa propre vie. Oui, oui, Ah oui, alors comment répondre à ça?
Quand vous incarnez un rôle, est-ce que vous vous sentez étranger?
Non, jamais. Jamais. D'abord parce que j'ai un garde-fou qui est fort, je suis dédouané, je suis invité à incarner ce rôle. Donc là, je n'ai aucun complexe et aucune censure. C'est-à-dire que d'abord, je m'approprie les informations que j'ai sur ce rôle, à savoir ce qu'a écrit l'auteur. Et ensuite, pour moi, c'est un réservoir dans lequel je projette mes fantasmes, s'il y a de la place pour, et le reste. Et c'est la somme de ça qui va nous échapper, et à ma volonté, à moi en tant que personne, et à ce qu'a écrit l'auteur, qui sera le résultat du personnage. Mais non, les personnages que j'incarne ne sont à mes yeux jamais étrangers, et je dirais même que s'il doit y avoir une fonction en tant qu'acteur, c'est de porter la parole, la détresse ou l'urgence ou le bonheur de ce personnage.
Vous savez pourquoi vous l'êtes devenu acteur, vous?
Non, je sais pourquoi j'ai continué. En revanche, c'est que quand je suis rentré dans ces écoles, j'ai réalisé que je pouvais prendre la parole et que ça avait du sens pour moi.
prendre la parole, être maître du regard aussi, du regard des autres.
Non, ça, le temps qu'il faut pour pouvoir être maître ou s'en affranchir du regard des autres. Oui, ça rejoint, mais c'est un travail à long terme. C'est... Vous savez, ce travail, ce métier d'acteur qu'on fait, c'est un artisanat, c'est une école en puissance et elle est sans limite et on se bonifie et on avance. C'est un chemin de vie, quoi.
Et qu'est-ce que vous allez chercher au bout de ce chemin? Vous avez fini par le déceler?
Je me cherche moi d'abord. Et après, je cherche la délivrance et le bonheur.
Se délivrer de quoi?
Ah, bonne question, tiens.
Peut-être faire entendre certains mots aussi. Et ce matin, ce sont les mots de l'écrivain Charles Juliet que vous avez choisi de nous faire entendre dans un recueil qui s'appelle « Ce pays du silence ». Pourquoi lui?
Ben, peut-être parce qu'inconsciemment, je me reconnais en lui. Et quand je suis tombé sur ses écritures, elles résonnaient fort en moi. Et ça rejoint ce que je viens de dire, par exemple, sur le parcours d'un artiste, quoi. Et le chemin qu'il a à faire pour se délivrer de lui-même, déjà, et pour passer à autre chose.
On vous écoute?
Moi, je le prends en cours, sinon c'est trop long. C'est un recueil de poèmes de Charles Juliet, donc, qui s'appelle « Ce pays du silence ». Si tu n'as jamais rejoint ce pays du silence où la voix parle, si tu n'as jamais marché en aveugle à l'intérieur de la nuit, si tu t'obstines à refuser de détruire en toi ce qui doit l'être, si par peur de l'inconnu tu renonces à te laisser reconstruire, si tu n'es pas à ramper jour après jour en direction de la source, tu ne recevras rien de ce qui se donne à vivre dans la simplicité de mes mots. Trop pauvre l'instant qui s'offrait. Je marchais à contresens, trafiqué de choses mortes, ou hanté par la merveille qui scintillait là-bas, au loin, en avant, en ce pays, qui appartiendrait toujours aux ailleurs. Des années à m'égarer, me fourvoyer, à m'éloigner du lieu où se proposait ce dont j'avais soif. Mais après tant d'errances, de ratages, de jours morts, j'ai trouvé l'accord, suis à l'unisson, avance de ce pas serein qui se règle sur celui de la vie. Cette parole dont j'ai l'intuition, qui naît de ces instants où une vie étale atteint en moi son plus haut niveau, qui harmoniserait les contraires, incarnerait la quintessence, unifierait le chaos, ronde et lisse et pleine comme un lourd galet. Elle induit chacun de mes mots. Mais puisque j'échoue à le dire, toi, mon lecteur, nuance, rectifie, complète ce que je te soumets. L'œil policier qui surveille, tranche, repousse, la prison d'une exigence trop extrême, et le fleuve à son étiage qui paraisse au pied des murs, puis se perd dans les sables. J'ai obturé l'œil, crevé les murs, je ne sais plus rien de ce qui naguère tant m'obsédait. Abandonné sans contrôle à cette vie qui me traverse, claire ou trouble, paisible ou furieuse, consentant enfin à ce qu'elle soit ce qu'elle doit être, à ce qu'elle m'emporte, ou je ne sais.
On pourrait vous entendre toute la journée. Un extrait de « Ce pays du silence » de Charles Juliet, lu par Samy Bouajila. Merci infiniment, Samy, d'être venu ce
merci
matin
à vous, Augustin, merci.
Faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que les Bienheureux de Sofia Djama avec Nadia Cassi, Amine Lansari et Lina Koudri, qui a reçu le prix de la meilleure actrice à la dernière Mostra de Venise et qui nous a bluffé, nous aussi, sort mercredi. Je rappelle également, Samy, que vous ferez partie du jury du Festival des Arcs du 16 au 22 décembre. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son instant M, juste après une chanson qui aurait pu être écrite pour vous, tiens, Samy.
J'ai envie de toi, en entendant ta voix. J'ai envie de toi, en écoutant tes rires. Tes basses résonnent, ton port m'impressionne. Et tu es un bien bel homme et je fonds. Tu bouges un peu plus loin,
un bien bel homme, Catherine Ringer sur France Inter. Et c'est l'heure de l'instant M, l'instant média, avec Sonia De Villers.
Merci. Que je salue et que j'écoute tous les matins.
Un fan de c'est Sonia De Villers, Samy Bouajila.
Merci beaucoup. Bah voilà, ça y est, je suis toute rouge.
Enfin, j'espère bien. Comme le studio de France Inter.
Exactement. Salut, joli garçon. Bye bye.